thérapie sportive et cancer, parlons-en, présenté par Julia. Bonjour à toutes et à tous, auditeurs de Radio Libre en Périgord. Vous êtes aujourd'hui sur la 102.3 pour écouter un nouveau reportage de la Camille Sport et Cancer, de la chronique Camille Sport et Cancer, activité physique, thérapeutique et cancer, parlons-en. Cette chronique a été créée en avril 2025 et est en lien avec l'oncologie. Nous allons aborder l'activité physique adaptée aux personnes en situation de cancer, mais je vais également inviter des praticiens, des soins de support et différentes associations en lien avec le cancer. Commençons par le commencement. La Camille Sport et Cancer existe depuis 25 ans à l'échelle nationale. Elle a été créée par Thierry Bouillet et Jean-Marc Descottes. Cette association permet, grâce à son siège à Paris, de représenter la Camille sur toute la France. Différents praticiens sont dans les hôpitaux, dans des dojos mis à disposition par les mairies ou des salles pour permettre aux personnes en situation de cancer de bouger de manière adaptée grâce au médiété qui est la pratique détenue par la Camille Sport et Cancer. Le médiété, c'est bouger de manière sécuritaire. Le praticien va venir corriger physiquement le patient et par la parole toute la séance. Il y a des mouvements de souplesse, des mouvements de renforcement musculaire qui dépendent des objectifs thérapeutiques de chaque patient. Nous n'allons pas prendre en charge un cancer des poumons de la même façon qu'un cancer du côlon, surtout s'il y a eu des chirurgies. Pareil, un cancer du sein va nécessiter davantage de mobilité des bras pour limiter l'adhérence cicatricielle et permettre de retrouver une mobilité gléno-humérale, l'articulation de l'épaule, suffisante. Nous avons également le cancer de la prostate qui est à prendre en charge de manière tout à fait distincte du cancer du sein et du cancer du côlon ou des poumons. En effet, le cancer de la prostate, suite notamment à une prostatectomie totale ou partielle, va entraîner un relâchement périnéal. Et c'est ce relâchement post-chirurgical qui va entraîner aussi des fuites urinaires chez l'homme ayant eu un cancer de la prostate. Il va donc falloir renforcer le périnée par des exercices de conscience périnéale et d'abdominaux. Il y a donc différents objectifs thérapeutiques en fonction des différents types de patients. Les séances ont lieu deux fois par semaine pour chaque patient. Les groupes sont mixtes avec 7 personnes maximum par séance. Les séances ont lieu au dojo Michel Dasseux actuellement, les lundis, mardis et jeudi matin, et à Bergerac, les mardis et jeudi après-midi. Le but, c'est d'ouvrir à un maximum de personnes en Dordogne des séances sur différents lieux. Il y a également les séances tout public, qui visent les soignants, les proches des personnes en situation de cancer, donc les aidants, mais aussi les personnes qui, globalement, veulent lutter contre la sédentarité. La sédentarité, je rappelle, c'est éviter l'inactivité physique au quotidien, notamment être assis toute la journée à un bureau. Donc le but, ça va être de bouger sous toutes ses formes, peu importe le profil, malade ou non, à la Camille Sport et Cancer, grâce aux différents programmes. Le programme tout public est payant à raison de 105€ les 10 séances. Le but, c'est pour ce programme tout public de contribuer également à l'activité de l'association. Il y a également des dons possibles au sein de l'association Camille Sport et Cancer. Le siège est à Paris avec différents services, communication, partenariat, administratif très complet qui accompagne les praticiens. Actuellement, donc, je suis seule praticienne en Dordogne et je permets actuellement à une cinquantaine de personnes, séances tout public et en oncologie comprise, de bouger chaque semaine, de prendre conscience du corps, d'observer des bénéfices. Les bénéfices, ils sont observables à partir de 3 mois minimum d'activité physique régulière. En effet, plus la personne va être assidue, plus la personne va obtenir des bénéfices musculaires et en termes de souplesse. Il va falloir donc venir régulièrement, être patient et faire les consultations. Le patient en a une en arrivant sur le programme. Le patient va s'asseoir à une table en face du praticien et lui parler de son anamnèse, l'histoire de la maladie. Le praticien prend des notes. Ensuite, il va réaliser des tests de conditions physiques, petits tests d'équilibre, le test de la chaise pour mesurer la force des cuisses, le test de la planche pour observer la force des transverses et des grands droits au niveau des abdominaux. Le hand grip qui va permettre de mesurer la force de préhension de l'avant-bras. Il y a également le goniomètre, la mobilité gléno-humérale de l'épaule qui est mesurée, notamment très intéressant pour les cancers du sein. Différents tests avec une prise de tension également. On a le step test pour mesurer la capacité cardio-respiratoire restante. Donc là, on est essentiellement, principalement sur une mesure du souffle, de l'endurance cardio-respiratoire et musculaire, observable, enfin très intéressant chez les cancers du poumon. Il y a donc différents tests qui permettent de situer le patient à un instant T et de lui fixer des objectifs thérapeutiques pour évoluer dans le futur. Nous allons maintenant parler de différents types de cancers, de la façon de prendre en charge le cancer dans l'activité physique. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'activité physique ? Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'activité physique, c'est tout mouvement du corps produit par les muscles qui demande une dépense d'énergie. Donc ça inclut les efforts pour bouger au quotidien. Par exemple du jardinage, monter les escaliers, aller à la boulangerie à pied ou prendre le vélo pour aller au travail. Pour aller d'un lieu à un autre, pour effectuer les tâches de la maison, de loisirs, il y a donc tout un contexte quotidien dans lequel les individus bougent. On parle donc d'activité physique. Elle est non codifiée, non structurée, contrairement au sport où vous allez aller sur un créneau précis, bouger pour une activité physique sur une intensité et un temps donné. Mais alors, qu'est-ce que c'est que l'activité physique adaptée ? On sait que tous les praticiens de la CAMI ont la licence STAPS, Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, diplôme que j'ai moi-même passé à Talence avec une validation en 2018. Ensuite, le praticien passe un diplôme spécialisé dû en plus de la licence STAPS d'activité physique adaptée et santé. Qu'est-ce que l'activité physique adaptée et santé ? Tout le monde n'en a pas forcément entendu parler, pourtant elle est plutôt dans l'air du temps avec de nouvelles lois autour de cette pratique. C'est un encadrement spécialisé. L'activité physique adaptée et santé, c'est des séances qui sont conçues par des professionnels formés avec une personnalisation des séances. Une intensité donnée, un type d'effort donné. On est sur une moyenne d'effort qui est faible à modérée, jamais intense. La fréquence ajustée selon les capacités physiques. Une personne qui ne peut pas mobiliser les abdominaux va travailler différemment. Le praticien, dans le cas où une personne a une douleur à un bras, le praticien doit être en capacité de lui proposer un autre mouvement. Le praticien doit donc avoir une palette de mouvements secondaires à un mouvement principal proposé sur une séance. Les mouvements proposés dépendent aussi de la capacité physique et de la tolérance aux soins de chaque patient. Donc un patient très affaibli qui a beaucoup d'effets secondaires, les effets secondaires je pense notamment en cas de chimiothérapie, à des douleurs articulaires, à une fatigue chronique, à une fonte musculaire, des étourdissements, des nausées, un affaiblissement global du corps ne va pas pouvoir faire tous les exercices. Il va donc y avoir finalement, en fonction de cette tolérance aux soins, de cet affaiblissement, une adaptation complète, avec simplement souvent de la mobilité et non pas des séances de sport comme notre inconscient collectif nous l'impose souvent. L'activité physique adaptée fonctionne sur prescription médicale, notamment à la CAMI Sport et Cancer. On va demander sur la première consultation au patient de fournir une prescription médicale qui a été faite par le médecin ou l'oncologue. Cette prescription médicale va être le départ de la prise en charge. Le médecin a la capacité de donner des détails sur cette prescription et surtout d'autoriser le patient, avant, après une chirurgie, pendant les traitements, à faire de l'activité physique sans contre-indication. Le mouvement corporel prescrit par un médecin et encadré par des professionnels améliore la santé. C'est le cas de l'activité physique adaptée et santé. Et elle est souvent prescrite dans les cas d'affections de longue durée, ce qu'on appelle les ALD. Les affections de longue durée, c'est les maladies chroniques, notamment les personnes en situation de lombalgie, le diabète, l'obésité, mais également le cancer qui en fait partie. L'activité physique adaptée est reconnue en cancérologie. Elle diminue la fatigue de 20% à 40%. La fatigue, également appelée asthénie, fatigue chronique. Il a été prouvé par des études scientifiques que plus le patient bouge, moins il est fatigué. Elle va également améliorer la tolérance au traitement. Plus le patient va bouger, moins il y aura d'effets secondaires. Par le mouvement, le patient va libérer l'hormone du bonheur, l'endorphine, sécrétée par le système noradrénergique. Il va y avoir beaucoup d'effets positifs sur l'aspect physique, moins de douleur, plus de masse musculaire, plus de souplesse et un meilleur équilibre. Mais également sur l'aspect psychique, le patient, en libérant cette hormone du bonheur, va être plus dynamique, va avoir envie de bouger davantage, va avoir envie de recréer du lien social. Il faut savoir que la Camille Sport et Cancer, indirectement, va également permettre au patient de rompre l'isolement. Il y a donc une amélioration de la tolérance au traitement, une baisse de risque de développer un cancer. En effet, avant même que la maladie arrive, on parle de prévention primaire, si la personne bouge, elle a moins de risque de développer un cancer. Cette idée est reconnue sur les séances tout public. Les séances tout public vont vraiment permettre de bouger avant même qu'une maladie arrive pour s'entretenir. Mais il y a aussi un risque, une diminution de risque de récidive pour les personnes en situation de cancer. Donc là, nous sommes sur la prévention secondaire. La maladie est arrivée, il faut y remédier. Par remédier notamment aux effets secondaires des traitements, par du mouvement. Il y a ensuite la prévention tertiaire qui concerne la période de guérison, de rémission. Et cette prévention tertiaire va finalement permettre de limiter la rechute. Et donc, les séances sous public peuvent accompagner les anciens patients qui ne sont plus en traitement sur de l'activité physique régulière pour maintenir une condition physique. Plus il y a de muscles, plus le corps est oxygéné, plus la personne va être bien physiquement et moralement et moins le risque de récidive est élevé. Ça a été également prouvé scientifiquement, il y a de nombreuses études sur Internet. Une diminution des risques de développer un cancer, une diminution des risques de mortalité également, dans le cas des cancers en soins palliatifs. Il y a des cancers qui sont non guérissables mais maîtrisables. Il y a donc finalement une diminution des risques de mortalité. Le patient va se maintenir et maîtriser la maladie également en partie par le mouvement. C'est également multifactoriel. Tout ne repose pas sur l'activité physique. Il y a aussi un contexte d'hygiène de vie globale avec une bonne alimentation, avec souvent des conseils diététiques. Nous orientons les patients vers la Ligue contre le cancer, le diététicien qui va donner des conseils aux patients pour, selon ses effets secondaires et son mode de vie, s'alimenter le mieux possible. Le sommeil est très important. Un excès ou une pénurie de sommeil peut avoir un impact sur le patient. Il faut trouver un juste milieu. Il faut que le patient ait également une bonne hydratation. L'hydratation va avoir un rôle crucial pour éviter les toxines de s'accumuler dans le corps, suite notamment au traitement. Il faut que le corps puisse éliminer le traitement. Il va donc y avoir un effet très bénéfique de l'hydratation, d'une bonne hygiène de vie. Une prise en charge psychologique aussi est très conseillée pour permettre aux patients d'avoir cette capacité de se confier, de faire le point suite à l'apparition de la maladie, d'être accompagné pour vivre au mieux la pathologie. Donc on le sait, il y a des bienfaits pendant et après les traitements, mais également avant. Plus le patient commence tôt l'activité physique, notamment avant le début du traitement, plus le corps sera forgé physiquement et mentalement pour affronter le traitement. Si le patient commence pendant le traitement, cela évite trop rapidement une dégradation physique. Si le patient a pris connaissance de la Camille après les traitements, il s'agit de récupérer la masse musculaire perdue, récupérer finalement la perte de condition physique. Alors je pense à l'équilibre, à la souplesse. Et on fait beaucoup de souplesse sur les séances pour éviter la raideur articulaire et musculaire qui apparaît souvent en situation de chimiothérapie et de traitement de manière plus large. Nous en avons parlé avec un anesthésiste qui est passé sur RLP Radio il y a peu de temps. Il y a vraiment un bénéfice du mouvement avant la chirurgie, notamment dans le cadre du cancer du côlon. Un patient qui va bouger, notamment qui va travailler ses abdominaux avant la chirurgie, va avoir moins de pertes post-chirurgicales. Les abdominaux transverses, grand droit, mais également le périnée, auront été suffisamment constitués pour permettre au patient une chirurgie avec un retrait naturel de la masse musculaire post-chirurgie, mais un maintien de la masse musculaire qui avait été formée avant. Le patient va, malgré la perte de masse musculaire, en ayant construit avant, être moins déficitaire après la chirurgie. Si le patient a pris un rythme avant la chirurgie de venir sur les séances Camille Sport et Cancer, il va pouvoir revenir ensuite et reconstituer très rapidement sa masse musculaire et donc récupérer beaucoup plus rapidement, que ce soit en termes de forme physique ou de fatigue mentale. On le sait, plus on bouge, plus on a envie de bouger. C'est un cercle vertueux. Il y a donc des bienfaits durant les traitements, que ce soit la radiothérapie, l'immunothérapie, mais également durant la chimiothérapie. Il y a également, dans les situations de chirurgie, un bénéfice important. Je parlais d'immunothérapie L'immunothérapie consiste à naturellement faire travailler le corps contre la tumeur. Donc on est sur une nouvelle technique, mais nous avons également la radiothérapie. La radiothérapie va permettre, par une séance de rayons ciblage, d'aller cibler la tumeur et d'aller finalement l'irradier sur plusieurs séances, donc qui durent, c'est très variable, entre 15 et 30 séances dans la moyenne des patients. Le patient va venir tous les jours pour irradier la tumeur. Il y a donc des fois un effet un peu coup de soleil, avec un effet chaleur sur la zone irradiée, ou parfois un changement de texture de la peau, un durcissement de la peau, qui peut créer des problèmes de mobilité. D'où l'importance de bouger aussi la zone irradiée par la radiothérapie. La chimiothérapie, on en a parlé tout à l'heure, avec tous les effets secondaires associés, va finalement nécessiter une activité physique dès le début, voire si possible avant le début des traitements. Il y a une régulation du taux d'insuline, notamment lors de l'activité physique, avec une diminution du glucose, une meilleure régulation de l'insuline donc libérée par le pancréas et donc des hormones circulantes beaucoup plus stables, une diminution de l'inflammation chronique de bas grade. L'inflammation chronique de bas grade va diminuer grâce à une régulation du glucose. Il y a également une diminution de la fonte musculaire, ce qu'on parle de sarcopénie dans le cadre des traitements. Un meilleur sommeil, une humeur plus stable, une image corporelle au final que le patient apprécie davantage, avec une diminution des symptômes dépressifs, une diminution des douleurs et effets secondaires également, on en a parlé tout à l'heure, un impact sur la vie globale et une diminution des risques de récidive, une augmentation des chances de guérison. Elle stimule les défenses immunitaires, l'activité physique. Elle est efficace sur la plupart des traitements. Pour remédier aux effets secondaires des traitements, elle nécessite une adaptation des efforts. On en a parlé tout à l'heure également. Le cancer, notamment les sarcomes, le cancer colorectal, le cancer du sein, le cancer des ovaires, les glioblastomes et le cancer du poumon, il y a un risque qui dépend du stade initial et des types de cellules. Dans le cadre du sarcome, nous avons un risque élevé de récidive locale ou à distance. Le cancer colorectal a une fréquence de rechute selon l'atteinte des ganglions. Le cancer du sein également. Il y a une forme d'hormonothérapie, il y a un risque de rechute, notamment les cancers des ovaires également. Après la première ligne de traitement, il y a souvent un taux de récidive. Le glioblastome, qui est une tumeur cérébrale agressive avec récidive, fait partie des cancers avec un haut taux de risque de récidive. Il y a des facteurs qui vont bien sûr influencer les récidives. Le stade ou le diagnostic initial. Plus le cancer est détecté tardivement, plus il y a un risque de rechute. Peu importe le type de cancer. Le stade histologique. La tumeur de haut grade est plus agressive. Une atteinte des ganglions voisins aussi élève le risque. Lorsque la tumeur est dite métastasée, s'est déplacée dans d'autres organes, il va y avoir un risque de rechute plus important. Et donc, il va falloir que le patient soit davantage suivi. Le délai de 2 à 3 ans en moyenne avant la fin des traitements est parfois 5 ans et plus. C'est-à-dire que le patient, une fois qu'il a arrêté ses traitements, est considéré en rémission, mais pas encore en guérison. Donc 2 à 3 ans en moyenne après la fin des traitements, il est considéré en rémission. Et après 5 ans, il est considéré en guérison. Le cancer le plus fréquent chez la femme est le cancer du sein. Il y a le cancer triple négatif qui est très agressif et se développe rapidement, notamment chez les femmes jeunes. Et le cancer hormonodépendant. Celui-ci, il dépend des hormones féminines, les œstrogènes, qui viennent stimuler la zone cancéreuse et vont finalement contribuer au développement du cancer. Dans le cas du cancer triple négatif, il y a différents types de traitements, souvent des chimiothérapies associées à des radiothérapies, parfois de l'immunothérapie. Dans le cas du cancer hormonodépendant, nous sommes sur des traitements souvent similaires, accompagnés ensuite, après les traitements, post-traitement, d'un cachet qui s'appelle l'hormonothérapie, qui est pris 5 à 10 ans en moyenne après les traitements principaux effectués pour permettre à la femme de limiter le risque de récidive. Les traitements hormonodépendants vont finalement diminuer le risque de récidive en diminuant le taux d'œstrogène, d'hormone féminine dans le corps, bloquer les œstrogènes. Donc il y a de nombreux effets secondaires, notamment des douleurs articulaires, un effet de ménopause artificielle avec beaucoup de bouffées de chaleur, avec des sudations, parfois des nausées. Mais il y a également un facteur de protection contre le risque de récidive. Chez l'homme, le cancer le plus fréquent, c'est le cancer de la prostate. Il est mesurable grâce au taux de PSA dans la prise de sang. Le taux de PSA va permettre de savoir si l'homme est atteint d'un cancer, si le taux de PSA est trop haut. Il va y avoir ensuite des examens complémentaires si le taux de PSA est trop haut, notamment une biopsie qui va permettre de déterminer réellement le cancer. Si celui-ci est trop avancé, il y a une prostatectomie totale, un retrait total de la prostate, pour aussi bloquer les hormones masculines, la testostérone, qui est à l'origine du développement du cancer et qui est également à l'origine de la stimulation de la zone prostatique et donc du cancer. Il y a également la prostatectomie partielle pour les hommes qui n'ont pas un cancer de la prostate développé. Il va falloir, dans le cadre du cancer de la prostate, développer toute la partie périnéale. La prostatectomie va, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est très important de le rappeler, va avoir un impact sur le périnée indirectement. Cette chirurgie, c'est une chirurgie lourde. Pour éviter les fuites urinaires et récupérer plus vite, il va falloir que l'homme travaille les abdominaux et le périnée. Dans le cas du cancer du sein, je le rajoute, c'est très important, la femme peut également avoir une chirurgie. La chirurgie, ça peut être une tumorectomie, un retrait de la tumeur locale, ou une mastectomie, un retrait total du sein. Dans ces deux cas, il va y avoir une cicatrice. Il va falloir, dans le cadre des séances, mobiliser un maximum le bras pour limiter l'adhérence cicatricielle, que la cicatrice post-chirurgie vienne se coller au muscle du grand pectoral et limiter ensuite le mouvement de manière chronique chez la femme. Il va y avoir tout un travail de circonduction, mobilité circulaire des bras, d'élévation médiale et d'élévation latérale. Donc le rôle du praticien est très important, que ce soit dans le cadre du cancer du sein ou du cancer de la prostate, qui sont les cancers les plus répandus chez les hommes et chez les femmes. Mais il y a également le cancer du côlon. Le cancer du côlon se développe le plus fréquemment à partir de polypes. Il y a des polypes, ce qu'on appelle des petites masses bénignes dans le côlon, qui vont parfois se développer en tumeurs malignes, donc masse bénigne non alarmante, mais sous contrôle. Sur le long terme, on peut découvrir qu'une masse bénigne s'est transformée en masse maligne, et donc là, il va y avoir de la masse bénigne à la masse maligne, tout un suivi qui est tout à fait différent. La masse maligne, grâce à une biopsie, permet de confirmer qu'il y a l'apparition d'un cancer. Le cancer du côlon est traité sous forme de laparotomie, de nouvelles techniques beaucoup plus ciblées, d'opérations moins abrasives. Autrefois, c'était davantage la laparotomie, il y en a de moins en moins. Cette laparotomie permet une chirurgie verticale du ventre du patient, une ouverture finalement. On va également ouvrir le transverse pour aller chercher la tumeur, l'opérer. Il va y avoir souvent une partie plus ou moins importante du côlon de retirer. Suite à une laparotomie, qui est une chirurgie très importante, il va y avoir tout un travail, donc avant mais également après, de reconstruction de la masse abdominale, mais de manière très fine et ciblée. La laparotomie a nécessité une ouverture des abdominaux, des transverses, muscles profonds abdominaux. Il va falloir donc travailler de manière très douce pour éviter l'éventration, qu'il y ait une réouverture des transverses et que les organes sortent par cette réouverture. La cicatrice est souvent très fragile, il va falloir éviter également l'adhérence cicatricielle au niveau de la cicatrice du ventre, donc il va falloir faire également attention à bouger quand même suffisamment la zone abdominale pour ne pas impacter la mobilité abdominale du patient. Il y a également un phénomène de cyphose chez les personnes ayant bénéficié d'une laparotomie. La cyphose, c'est quand la personne se voûte pour indirectement opter pour une posture de protection sans s'en rendre compte et protéger la cicatrice. Il y a également le cancer du poumon. Le cancer du poumon, tout comme le cancer du pancréas, c'est un des cancers les plus complexes à prendre en charge, n'étant pas toujours opérable. Le cancer du poumon se développe souvent directement au cerveau dans le cadre des métastases. Le cancer du poumon va impacter tout l'aspect cardio-respiratoire du patient, Il va y avoir tout un travail de respiration, d'ouverture du thorax, de la cage thoracique, de conscience diaphragmatique chez le patient à réaliser. Le cancer du poumon, parfois opérable. Le cancer du pancréas, lui, est plutôt à maîtriser. C'est une zone qui va être très difficile à aller chercher en termes de chirurgie. Dans tous les cas, il va falloir travailler la lutte contre l'essoufflement, donc en périphérie des séances, aller marcher, faire du vélo et toujours des activités physiques douces. On évite la course à pied qui, en lien avec les traitements qui sont souvent très lourds, même dans le cadre de cancers à maîtriser, comme le cancer du poumon ou du pancréas, il va falloir faire attention aux articulations qui restent fragiles et aux os aussi qui sont fragilisés. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce reportage sur le cancer vous aura plu. Un grand rappel sur la CAMI, la chronique Radio CAMI, mais également la CAMI à l'échelle nationale, les différents types de cancers, comment nous, à la CAMI, on les prend en charge. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser sur Instagram. Vous pouvez également nous contacter via la radio Radio Libre en Périgord. Le prochain podcast, vous allez avoir un témoignage très touchant d'une maman avec sa fille en situation de handicap. Vous avez également l'association La Croisée qui passera dans les mois à venir et un petit flash de neurofeedback d'ici la fin de l'année. Un programme bien riche, j'espère vous voir fidèle sur la chronique radio, RLP, CAMI, activité physique, thérapeutique et cancer. Parlons-en.